Bonsoir.
Bonsoir.
Allô, c'est Bruna ?
Oui, c'est Bruna.
Bonsoir.
Bonsoir.
C'est Aline pour Histoire au bout du fil.
Bonsoir Aline, enchantée, merci de m'appeler.
Eh bien, enchantée de même, mais avec grand plaisir, dans le cadre de ces nuits de la lecture. On va passer un petit moment ensemble. Je vais juste vous dire en quelques mots comment ça va se passer.
D'accord.
Je vous ai prévu un petit menu sur le thème de la peur, puisque c'est le thème des Nuits de la Lecture 2023. Et puis entre deux, on pourra avoir un petit moment d'échange pour avoir vos retours et vos ressentis.
D'accord.
Et puis à la fin, si vous avez envie, prendre note des différents ouvrages ou noms d'auteurs qu'on aura partagés ensemble.
Très bien.
Le son est bon pour vous ?
Oui, ça y est, c'est bon.
Parfait. Et vous êtes bien installée ?
Je suis bien installée, je suis prête à vous écouter.
Parfait. Je vais commencer par un poème de Guy de Maupassant qui s'appelle « Terreur ». Ce soir-là, j'avais lu fort longtemps quelques auteurs. Il était bien minuit. Et tout à coup, j'eus peur. Mais peur de quoi ? Je ne sais pas, mais une peur horrible. Je compris, haletant et frissonnant d'effroi, qu'il allait se passer une chose terrible. Alors, il me sembla sentir derrière moi quelqu'un qui se tenait debout, dont la figure riait d'un rire atroce, immobile et nerveux. Et je n'entendais rien cependant. Ô torture ! De sentir qu'il se baisse à toucher mes cheveux, qu'il est prêt à poser sa main sur mon épaule, et que je vais mourir si cette main me frôle. Il se penchait toujours vers moi, toujours plus près. Et moi, pour mon salut éternel, je n'aurais ni fait un mouvement, ni détourné la tête. Ainsi que des oiseaux battus par la tempête, mes pensées tournoyaient comme affolées d'horreur. Une sueur de mort me glaçait chaque membre, et je n'entendais pas d'autre bruit dans ma chambre que celui de mes dents qui claquaient de terreur. Un craquement se fit soudain, fou d'épouvante, ayant poussé le plus terrible hurlement qui soit jamais sorti de ma poitrine vivante, je tombai sur le dos, roide et sans mouvement. C'était Terreur. De Guy de Maupassant. Un petit poème pour commencer.
D'accord.
Ça va ?
Oui, ça va. J'attends la suite avec impatience.
Alors, c'est un extrait d'un roman de Stefan Zweig qui s'appelle La peur. Lorsqu'Irène, sortant de l'appartement de son amant, descendit l'escalier, de nouveau une peur subite et irraisonnée s'empara d'elle. Une toupie noire tournoya devant ses yeux. Ses genoux s'ankylosèrent et elle fut obligée de vite se cramponner à la rampe pour ne pas tomber brusquement la tête en avant. Ce n'était pas la première fois qu'elle faisait cette dangereuse visite et ce frisson soudain ne lui était pas inconnu. Toujours en repartant malgré sa résistance intérieure, elle succombait sans raison à ces accès de peur ridicule et intense. Pour revenir au rendez-vous, la chose était infiniment plus facile. Après avoir fait stopper la voiture au coin de la rue, elle franchissait avec rapidité et sans lever la tête les quelques pas qui la séparaient de la porte cochère et montait précipitamment les marches. Cette première crainte, où il y avait aussi de l'impatience, se fondait dans la chaude étreinte de l'accueil. Mais plus tard, quand elle s'en retournait chez elle, un nouveau frisson mystérieux la parcourait, auquel elle se mêlait confusément le remords de sa faute et la folle crainte que dans la rue, quelqu'un pût lire sur son visage d'où elle venait et répondre à son trouble par un sourire insolent. Derrière, les dernières minutes auprès de son amant étaient empoisonnées par l'appréhension de ce qui l'attendait. Quand elle était prête à s'en aller, ses mains tremblaient de nervosité. Elle n'écoutait plus que distraitement ce qu'il lui disait et repousser hâtivement ses effusions. Partir. Tout en elle ne voulait plus que partir. Quitter cet appartement, cette maison, sortir de cette aventure pour rentrer dans son paisible monde bourgeois. Puis venaient les ultimes paroles qui cherchaient en vain à la calmer et que dans son agitation elle n'entendait plus. Et c'était enfin cette seconde où elle écoutait derrière la porte pour savoir si personne ne montait ou ne descendait l'escalier. Dehors l'attendait déjà la peur, impatiente de l'empoigner, et qui lui comprimait si impérieusement le cœur que dès les premières marches, elle était essoufflée. Elle resta ainsi les yeux fermés pendant une minute, respirant avidement la fraîcheur crépusculaire qui flottait dans l'escalier. Soudain, à un étage supérieur, une porte claqua. Effrayée, elle se ressaisit et descendit vivement tout en ramenant contre son visage d'un geste machinal l'épaisse voilette qui la couvrait. Maintenant, il y avait encore un moment terrible. Il s'agissait de sortir d'une demeure étrangère et de gagner la rue. Elle baissa la tête comme un sportman qui prend son élan pour sauter et fonça subitement vers la porte cochère entrouverte. Elle heurta une femme qui semblait justement vouloir entrer. « Pardon !» fit-elle, troublée en même temps qu'elle s'efforçait de passer. Mais la personne lui barra la porte de toute sa largeur et la dévisageant avec colère et mépris, cria d'une voix dure et sans retenue. « Je vous y attrape enfin. Ah, bien entendu, c'est une honnête femme, une soi-disant honnête femme. Elle n'a pas assez de son mari, de son argent et de tout ce qu'elle a. Il faut encore qu'elle débauche l'ami d'une pauvre fille. Pour l'amour de Dieu, mais qu'avez-vous ? Mais vous vous trompez ? Balbutia Irène, tout en tentant avec maladresse de s'échapper. Mais de son corps massif, la fille boucha de plus belle l'entrée et cria d'une voix perçante. « Non, non, je ne me trompe pas. Je vous connais. Vous venez de chez Édouard, mon ami. Maintenant, je vous y ai prise, enfin. Je sais pourquoi il a si peu de temps à me consacrer ces derniers jours. C'est à cause de vous, espèce de... Mais pour l'amour de Dieu !» interrompit Irène d'une voix blanche. « Ne criez pas comme cela !» Et involontairement, elle recoula sous le portail. La femme la regarda goguenarde. Cette peur qui la faisait vaciller, cette détresse manifeste semblait l'amuser. Et elle se mit à examiner sa victime avec un sourire railleur, empreint de satisfaction. Sa voix s'épanouit, devint presque joviale. « Voilà !» Voilà donc comme elles sont, les femmes mariées, les belles dames distinguées. Quand elles nous volent nos hommes, elles portent une voilette, une espèce de voilette pour pouvoir, après, jouer à l'honnête femme.
Quoi ? Que me voulez-vous ? Mais je ne vous connais pas. Il faut que je m'en aille.
Vous en allez ? Oui, chez monsieur votre mari, dans un appartement bien chauffé, pour y poser à la grande dame et se faire déshabiller par des domestiques. Ce qu'on fait, nous autres, si on crève de faim ou pas, vous vous en fichez, hein ? Ces honnêtes femmes, ça chipe même la seule chose qui nous reste.
Irène s'efforça de se ressaisir et, obéissant à une vague d'inspiration, plongea dans son sac et y prit tout l'argent qui lui tomba sous la main. « Tenez, voici, mais à présent laissez-moi. » Je ne reviendrai pas, je ne reviendrai jamais plus, je vous le jure. »
Le regard mauvais, la femme empoigna l'argent. « Garce !» murmura-t-elle. Irène frémit sous cette insulte, mais voyant que l'autre lui laissait le passage libre, elle se précipita dehors, comme on se jette du haut d'une tour pour se suicider. Elle sentait. En courant, les visages glissaient à ses côtés comme des masques grimaçants. Elle atteignit péniblement une voiture arrêtée au coin de la rue. Elle se jeta sur les coussins comme une masse, puis tout en elle devint immobile et rigide. Lorsqu'au bout d'un certain temps, le chauffeur étonné demanda à cette singulière cliente où elle voulait aller. Elle le regarda comme ahurie, jusqu'à ce que son cerveau engourdi eût enfin saisi ses paroles.
à la gare du Sud, lança-t-elle hâtivement. Et soudain, l'idée lui venant que la personne pourrait la suivre, « Allez vite, vite, dépêchez-vous !» C'est seulement alors que la voiture filait qu'elle sentit combien cette rencontre l'avait touchée. Elle joignit ses mains qui pendaient le long de son corps, rigides et glacées comme des choses mortes. Soudain, elle se mit à trembler si fort qu'elle en était toute secouée. Une saveur amère lui monta à la gorge. Elle éprouva une espèce de nausée, en même temps qu'une fureur aveugle, insensée, lui convulsait la poitrine. Elle eût voulu hurler ou donner des coups de poing pour se délivrer de l'horreur de ce souvenir, enfoncé dans son cerveau comme un hameçon pour ne plus voir devant elle ce visage méchant avec son sourire et son rire goguenard. Cette bouche malodorante et pleine de haine qui lui avait craché en pleine figure. Des paroles si infâmes, ce poing rouge dont la femme l'avait menacé. L'envie de vomir la serrait maintenant à la gorge. D'autant plus que la voiture, roulant rapidement, la jetait à gauche et à droite. Elle était sur le point de dire au chauffeur de ralentir lorsqu'elle pensa qu'ayant donné à la femme presque tout l'argent que contenait son sac, elle n'avait peut-être pas assez pour le payer. Vite ! Elle lui fit signe de s'arrêter. Et au nouvel étonnement du chauffeur, elle descendit brusquement. Par bonheur, ce qui lui restait d'argent suffisait. Mais alors elle se vit seulement dans un quartier étranger, au milieu d'un va-et-vient des gens affairés dont chaque geste et chaque regard lui causaient un mal physique. Et voici que ses genoux, comme ramollis par la peur, refusaient de la porter plus loin. Il fallait pourtant qu'elle rentrât. Rassemblant ses forces, déployant une énergie surhumaine, elle se contraignit à avancer de rue en rue avec la même difficulté que si elle pataugeait dans un marais ou traversait un champ de neige. Enfin, elle arriva devant chez elle. Et maîtrisant sa nervosité pour ne pas éveiller l'attention, elle s'élança dans l'escalier. À présent que la femme de chambre lui enlevait son manteau, qu'elle entendait son petit garçon jouer à côté avec sa sœur cadette et que son regard apaisé voyait partout des objets familiers, Irène reconquérait une apparence de calme. Cependant que les vagues souterraines de l'émotion continuaient à battre douloureusement dans sa poitrine tendue, elle ôta sa voilette, passa la main sur son visage avec le désir intense de paraître naturelle et entra dans la salle à manger où son mari lisait le journal devant la table mise pour le dîner.
Il est un peu tard, ma chère Irène, fit-il sur un ton de doux reproche. Et se levant, il déposa sur sa joue un baiser qui éveilla en elle une pénible sensation. Ils se mirent à table et il demanda avec indifférence, tout en lisant son journal, où t'es-tu attardée?
J'étais chez Amélie. Elle avait des emplettes à faire et je l'ai accompagnée,
ajouta-t-elle, déjà furieuse contre elle-même d'avoir si mal menti. D'ordinaire, elle s'armait d'un mensonge bien étudié et pouvant faire face à toutes les possibilités de contrôle. Mais aujourd'hui, la peur lui avait fait oublier de prendre ses dispositions, d'où cette improvisation malhabile. Si son mari téléphonait à l'ami pour se renseigner, comme dans la pièce de théâtre qu'ils avaient vue récemment.
Qu'as-tu donc? Tu me parais nerveuse. Pourquoi gardes-tu ton chapeau?
Demanda son mari. Elle tressaillit, se sentit de nouveau embarrassée et se précipita dans la chambre pour l'enlever. Là, elle se mira dans la glace jusqu'à ce qu'il lui semblât que son regard inquiet était redevenu calme et sûr. Puis, elle entra dans la salle à manger. La bonne servit le dîner et ce fut un soir comme tous les autres. Peut-être un peu plus silencieux, un peu plus froid que d'habitude. Un soir où la conversation fut terne, pauvre et souvent trébuchante. Les pensées d'Irène revenaient sans cesse en arrière
et tressaillait d'épouvante en parvenant à l'instant où elle était venue buter contre la femme sinistre. Pour se sentir en sécurité, elle levait la tête et son regard caressait les objets qui l'entouraient et dont chacun avait sa signification ou évoquait un souvenir particulier. Alors, elle éprouva un léger apaisement. Et le calme mouvement d'acier de la pendule à travers le silence imprégnait imperceptiblement son cœur de sa cadence régulière. C'était un extrait de « La peur » de Stefan Zweig. Vous êtes là, Bruna ?
Je suis là. Merci pour la lecture. Ça a bien fonctionné puisque mon cœur s'est accéléré.
Oh.
J'ai compris ce sentiment de peur. Je l'ai ressenti.
Et là, ça va ? Ça revient ?
Oui, il se calme ?
Non,
mais là, ça va. Hein. C'est toute proportion gardée. Après, on connaît tous ce sentiment de peur, quel qu'il soit, pour des raisons différentes. Mais c'est très descriptif, là. Ça peut faire penser à des situations déjà vécues, même si elles sont différentes.
Bon, c'est chouette ce petit moment entre nous.
Mais oui.
Alors, je vais terminer avec un tout petit poème de quelques secondes. Il fait une quarantaine de secondes.
D'accord.
Mais c'est un auteur algérien que je viens de découvrir, un poète contemporain algérien. Et j'ai envie de partager parce que ça m'a touchée en lisant et donc du coup je le partage. C'est un poème de Kamal Zehardoumi. Comme dans le fameux conte de Pau, le visionnaire, à l'abri de ce qu'ils croyaient être leur forteresse, ces personnages ne purent sauver leur peau. La peste était parmi eux cette maladie du manque d'amour qui aujourd'hui éclate au grand jour, qui vous ordonne le confinement pour de l'individualisme goûté au raffinement et de la peur multiforme connaître les délires, devenir les forçats d'ordre venus de l'Olympe médiatique et étatique pour voir que l'invisible ennemi est l'absence d'humaine chaleur. Kamal Zehardoumi nous a écrit ce poème en 2020 qui s'appelle « L'adversaire ». Voilà.
Merci.
Eh ben merci pour votre écoute.
Avec plaisir, merci de m'avoir fait vivre ces petits moments de peur, de jolies peurs de chez moi.
Eh ben merci beaucoup pour avoir partagé ces moments sur les Nuits de la Lecture 2023 en direct de Tchet FM avec Histoire au bout du fil. Et on vous y attend très nombreux. N'hésitez pas à réserver sur histoireauboutdufil.fr. Bonne soirée, Bruna.
Bonne soirée, Aline. Merci. À bientôt.
À bientôt. Merci.
Au revoir.
Au revoir.